Les goélettes de Charlevoix sillonnaient le fleuve Saint-Laurent pour ravitailler les villages en vive, transporter le bois vers les papetières. C'est 300 ans de relation avec le fleuve. On a beaucoup parlé de ces hommes et de la mer, du Saint-Laurent si difficile à naviguer, qui prenait des vies au gré des tempêtes. Mais qu'est-ce qu'il en est vraiment des femmes qui restent à terre, les terres de roche de Charlevoix? On a bien peu parlé d'elles. Elles étaient épouses, mères, cuisinières, gestionnaires, mais aussi entrepreneurs, développeurs, rarement navigatrices, mais parfois membres de l'équipage. À travers ce balado de 6 épisodes, on s'invite chez ces femmes au pays des goélettes.
J'avais dit à mon père là, que je partais. Je sais que je l'ai déçu parce qu'il n'aurait pas voulu ça. Mais il ne m'a pas empêché, il m'a laissé partir. Et il m'a dit, si tu t'en vas, tu nous protégeras, tu ne nous oublieras pas. Et après, j'étais partie. Là, ils ont changé le nom du bateau, ils l'ont appelé l'Alida.
Alida Bouchard, de Petite-Rivière-Saint-François, a navigué sur l'étendard dans les années 40. Ici Marie Grégoire. Aujourd'hui, on parle des filles, des fiancées, des cousines, des mères, des grands-mères, des voisines, avec Marianne Rainville, qui est directrice générale du Musée maritime de Charlevoix. Loin d'être didactique, notre volonté dans ce balado, c'est de vous faire découvrir, de façon même ludique, des paroles de femmes qui ont vécu, observé, qui se sont passionnées pour les goélettes et pour nous faire voguer à travers les flots de leur histoire. La musique de Stéphane Tétrault, violoncelliste, et de Noëlla Huet, mezzo-soprano, avec l'accompagnement des douces paroles de David Bouchard, comédien.
Marguerite au bord de la mer, Marguerite au bord de la mer, à la pêche aux coquilles, aux gais bonbons, fallira la lyre. À la pêche aux coquilles, aux gais bonbons, fallira la lyre. Elle en a déjà pêché trois, elle en a déjà pêché trois. Aperçoit un navire, aux gais bonbons, fallira la lyre. Aperçoit un navire, aux gais bonbons, fallira la lyre. Arrive, arrive, beau bâtiment, arrive, arrive, beau bâtiment. Je t'y souhaite bonne arrive, au gai bonbon, fallira la lyre. Je t'y souhaite bonne arrive, au gai bonbon, fallira la lyre. Si mon amant il est dedans, si mon amant il est dedans. Encore meilleur arrive, au gai bonbon, fallira la lyre. Encore meilleur arrive, au gai bonbon, fallira la lyre.
À cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient sur les bateaux. Je pense pas que mes parents m'auraient laissé aller sur les bateaux parce que, je veux dire, mon père en naviguant, il savait c'était quoi la navigation. Puis ma mère, elle a jamais aimé que mon père navigue. Donc, c'est certain qu'il m'aurait pas laissé aller sur les bateaux, là. Mais c'est certain que si j'avais été un garçon, je suis sûre que j'ai de l'eau salée dans les veines aussi. Mais je veux dire, je pense que c'était un peu ma personnalité. J'ai toujours été solitaire, j'ai toujours été dans mon petit coin. Donc, c'est pour ça que je me serais sentie bien dans cette vie-là.
Danielle Desgagnés-Bouchard, petite fille, fille et épouse de marin, est de l'aventure du musée maritime depuis ses tout débuts, il y a 40 ans. Alors, on va rencontrer une encyclopédie sur deux pattes des femmes aux goélettes. Parce que Marianne Rainville, c'est la directrice générale du musée maritime de Charlevoix, mais elle aurait pu décider que sa passion, c'était les goélettes, point. Elle a décidé que sa passion, c'était les goélettes, oui, mais aussi toutes ces femmes qui font que cette industrie-là a tenu à bout de bras parfois et qu'on a aujourd'hui besoin d'aller creuser un peu mais de trouver cette histoire-là qui est un peu le reflet de l'histoire du Québec, Marianne.
Oh oui, certainement. L'histoire du Québec traditionnel, rural, là. Parce que vous parlez de ma passion des femmes au pays des Goélettes, mais ma première passion, c'est les femmes en agriculture. C'est elles qui m'ont appris l'importance des collaboratrices. Et, mais de toute façon, je dirais que vous avez tout faux, Marie.
Bien, c'est correct. C'est pour ça que vous êtes là, pour mettre tout ça sur les rails comme il faut.
Mon
là.
Intérêt, c'est que je pense, en général dans la vie, ça n'a rien à voir avec les Goélettes, que si on ne comprend pas l'arrière-scène, on ne comprend jamais le devant de la scène.
Tellement.
Et donc,
la petite histoire qui explique la grande.
C'est ça. Et c'est vraiment ça. Et évidemment, compte tenu que la grande histoire est toujours écrite par les vainqueurs et les dominants, bien évidemment que la grande histoire, incluant celle des Goélettes, a été écrite d'abord par les hommes et dans la perspective des hommes. Alors qu'il me semble que si on veut avoir toute l'histoire, il va falloir qu'on comprenne aussi le derrière. Et c'est un sujet d'étude qui est tout récent. Hein? En fait, votre première invitée du premier épisode, Mme Bouchard, elle a ouvert le champ d'étude à elle tout seule. On n'avait pas beaucoup travaillé ces questions-là. À sa suite est venue Catherine Melançon, qui, travaillant à comprendre mieux le village de Saint-Joseph-de-la-Rive, s'est mise à nous aiguiller sur les femmes derrière. Et puis moi, ma rencontre frontale, là, ou mon iceberg en pleine mer, ça a été les propos d'Antoine Côté. Mm-hmm. Antoine Côté qui a fait un livre qui s'appelle « Les Goélettes du Saint-Laurent » où il y a quelques pages en introduction sur les femmes au pays des Goélettes, sur les femmes derrière les Goélettes. Et entre autres, puis je vais vous faire une petite citation parce que ça, c'est comme ma bougie d'allumage, c'est « Certaines épouses et filles d'armateurs étaient membres actifs de l'équipage et elles accomplissaient souvent les mêmes tâches traditionnellement réservées aux marins aguerris. » Et ça, ça a été comme mon chemin de Damas.
C'est tu ça, sais, ça c'est... fait comme «
Hein? Qui sont-elles? Où sont-elles? Je veux les connaître. » Alors voilà, ça a parti comme ça.
Puis donc, on parle de ces femmes qui étaient des épouses, de ces femmes qui étaient entrepreneurs, mais on a entendu aussi de ces filles qui avaient plus ou moins d'intérêt ou de l'intérêt, mais leur papa ne voulait pas. Qui sont-elles, donc, ces cousines, ces filles, ces voisines, qui n'étaient pas directement liées à la Goélette, mais qui faisaient vivre, en fait, cette aventure de la Goélette?
Bien, on est dans le Québec traditionnel, hein? Alors donc, on est dans le Québec où les femmes sont d'abord au service des hommes de toutes sortes de façons, là, que ce soit de faire le pain, aller laver les bateaux au printemps, puis aller vider les cuisines à l'automne. Donc, elles font toutes sortes de choses, incluant faire des plus grands jardins pour pouvoir faire de la conserverie, pour pouvoir en embarquer ces goélettes au printemps.
L'intégration
ouais,
verticale.
C'est des entreprises. Et il faut pas oublier que c'est des entreprises familiales. Donc, ça a même, pour beaucoup de Québécois, c'est plus clair l'histoire, mettons, des femmes en agriculture. Oui. Alors, c'est le même scénario,
puis
essentiellement.
Même celle des bûcherons, hein? On a les connaît mieux. On a l'impression qu'on n'en a plus parlé.
Oui, puis aussi, les goélettes, c'est très géographique, hein? On faisait de l'agriculture partout au Québec, à des certains coins, plus de l'agriculture de subsistance. Donc, c'est aussi, c'est géographique, les goélettes. Mais elles ont toutes faites. Et c'était aussi des entreprises où, à un moment donné, aussi pour remercier une nièce qui a aidé, par exemple, à la maison, on l'embarquait sur un voyage pour qu'elle fasse un tour. Aussi, pour déménager une cousine, on mettait le stock sur la goélette, puis ça descendait ou ça
c'est
montait.
C'est une affaire de famille.
Oui,
là.
Oui, c'est une affaire de famille. On se rend service. Et tu sais, par exemple, une des choses qui m'a étonnée quand je suis arrivée dans cet univers-là, c'est qu'il y avait des hommes qui étaient propriétaires de goélettes, puis qui n'avaient pas d'auto à l'époque où tout le monde avait une auto ou presque. Alors, ils faisaient tout en goélette, tu sais. Donc,
c'est leur moyen de transport, oui,
oui, oui.
Même
je
au
pense
quotidien.
Je pense à une cuisinière sur qui a travaillé occasionnellement sur la Mont-Sainte-Marie, puis qui disait, j'allais voir, ma paye, c'était de pouvoir monter, aller voir ma famille à Montréal. Tu sais, il y avait quelque chose de... c'était normal. Puis on amenait aussi les garçons étudier, bon, etc. Donc, on amenait à l'automne les garçons, puis ils revenaient ces goélettes, puis ils restaient là. Mais quand ils arrivaient à la maison, il fallait que les filles se lèvent pour leur donner meilleur fauteuil parce que les gars, ils travaillaient fort ces bateaux. Alors, c'est ça l'histoire aussi. Mais c'est aussi l'histoire de femmes qui ont été extrêmement entreprenantes, là, on a parlé de Mathilda, Cécilia, mais il y en a eu d'autres aussi. Puis c'était aussi des vies un peu tribales. C'est-à-dire que, par exemple, Madame Dufour de l'île aux Coudes m'a raconté qu'au début de son mariage, selon la saison, elle vivait chez ses parents ou ses beaux-parents, si c'était plus proche ou plus loin du bateau, du quai. Et elle, c'en est une de celles qui faisait un plus grand jardin pour mettre de la conserverie sur les bateaux au printemps.
On va aller découvrir justement toutes ces femmes-là dans la deuxième partie de l'entrevue.
Au grand étalage du bord de mer, parmi l'algue et le goémon, les mots sont arrivés, en nombre pressé, rejetés par la vague que si longtemps en son sein les choya sur le sable gris fruit de mer captif, dégoulinant de naissance arrière. Leur âme, secrète et dure, polie par les abysses noirs, projette des lueurs vagues, nous sera remise, sans mode d'emploi, fermée comme une huître perlière dans les odeurs marines, profondes à mourir.
J'ai navigué jusqu'à l'âge de 20 ans. Et après l'âge de 16 ans, là, je faisais tout l'été. J'allais plus à l'école et j'étais sur le bateau. J'étais surtout responsable de la cuisine. Et puis, surveillais le bateau. Et si il y avait des choses que je voyais, bien, j'allais trouver mon père. Je lui disais, ça, c'est pourquoi, ça, quelle affaire que c'est.
Marianne Rainville, des femmes qui naviguaient, des femmes qui cultivaient, des femmes entrepreneurs. Vous l'avez dit, c'est un peu quelque chose de tribal. Tout le monde s'entraidait. On va jouer un jeu. Je vais vous nommer des rôles et vous allez, vous, me nommer des prénoms. Puis, comme ça, on va peut-être faire un peu le tour de tout ce qu'elles pouvaient faire, ces femmes, au pays des goélettes. Alors, on y va.
Je vais essayer, là, mais je ne suis pas Hubert de Gagné, le conseiller scientifique du musée.
Ah, mais connaissant votre passion pour avoir jasé avec vous un peu de ces femmes-là, je pense que vous êtes capable de relever le défi. Alors, une fille.
Sarah Bouchard.
Qu'est-ce que ça vous dit, Sarah Bouchard?
Sarah Bouchard, pour deux images me viennent d'elle. On a une magnifique photo d'elle où elle est à la roue d'une goélette, puis elle a son neveu, qui est bébé, qui est assis sur la roue, là. Tu sais, il est là, là. Et elle était la fille, évidemment, d'un capitaine. Et donc, elle était sur le bateau de son père. Et pour moi, ça, c'est la fille.
Ça existe, ça explique aussi toute cette...
Ça résume toute l'histoire.
C'est ça, la multifonction, c'est ça, la multifonction, le tout, là, tu sais.
Tout.
Voilà. Une fiancée.
Yvonnette.
Yvonnette, quel beau prénom.
Oui. Yvonnette, la fiancée longtemps de Gérard. Puis Yvonnette, c'est aussi... j'ai trahi mes propres amours parce qu'il y a Yvonnette, qui était donc la fiancée de Gérard de Gagné puis qui a été son épouse. Elle a aussi géré l'auberge où Anne Hébert est allée passer des étés.
Donc,
tout est dans tout, tu sais.
Était aubergiste?
Était aubergiste, Yvonnette.
C'est incroyable. Donc, ça veut dire qu'elle appartenait à une famille qui avait cette entreprise de goélettes,
oui.
Mais elle avait aussi l'auberge.
Oui, oui, oui. Son mari était capitaine, puis elle avait une auberge qu'elle gérait, puis Anne Hébert est allée passer des étés là.
Puis là, elle avait des enfants, Yvonnette?
Bien, c'est sûr. Ils sont encore bien vivants et bien en forme.
Non, mais c'est incroyable. Ça veut dire qu'il y avait deux entreprises dans la famille, une à Yvonnette et l'autre au conjoint. Ah oui. Oh, oui, alors on l'aime, Yvonnette, effectivement. Je pense que c'est un modèle. Une mère.
Ah, Mathilda.
C'est la vôtre, celle-là.
Ah, Mathilda, parce que elle aimait tellement ses trois fils et elle voulait tellement qu'ils réussissent. Et c'était tellement une femme décidée, mais aussi parce que c'était une chef de tribu. Et il y a quelque chose chez Mathilda qui est de l'ordre de la chef de tribu. Quand ses fils sont jeunes, ses trois fils, avec qui elle sera longtemps en affaires, les trois sont mariés et ils vivent dans la même maison avec les premiers bébés, puis avec les deux sœurs.
Tout le monde vit dans la même maison.
Tout le monde vit dans la même maison. Puis, et donc, pour moi, Mathilda, c'est la mère, puis c'est la chef de clan.
Oui, vraiment. Parce que là, mais en même temps, on peut se dire, tout le monde vivait dans la même maison, mais quand les hommes prenaient la mère...
Il restait que des femmes.
Et donc, là... Mathilda était cette chef de clan qui serrait tout ensemble, qui aplanissait les différents parfois.
Vous allez au-delà de ce que l'histoire peut nous raconter. Là, vous êtes en train de faire le film de Mathilda. Ça, c'est pas ce qu'on fait au musée. Nous, on sait juste que Mathilda, elle a été très présente. Elle, c'était une mère qui voulait que ses enfants réussissent. Ils ont d'ailleurs réussi. Et ses petits-enfants ont même donné le groupe des gagnés. Donc, oui, c'est dans mon esprit, à moi, je me représente comme un chef de clan.
Mais ça veut dire, quand vous dites je me fais un film, c'est vrai, mais ça veut dire qu'on en sait aussi très peu sur leur quotidien.
Très, très peu sur le quotidien de ces femmes-là, très, très peu. Parce que je vous dirais que le quotidien des hommes, on l'a au quotidien parce qu'il y avait ce qu'on appelle en bon français les logbooks. Donc, les bateaux, ils devaient tenir des carnets de bord. Et donc, on sait au moins la température qu'ils faisaient sur l'eau, où est-ce qu'ils accostaient, qu'est-ce qui se passait. Alors que les femmes, on le sait pas mal moins. On sait une chose qui est amusante sur les femmes, par exemple, c'est qu'elles ont presque toutes eu leur enfant à l'automne parce que les bébés étaient faits en même temps dans les villages côtiers. Fait que les femmes accouchaient toutes en même temps. Et donc, c'est amusant.
Il y avait des bébés-booms.
Oui, il y avait des bébés-booms à tous les automnes. Puis quand tu parles à un ou une de ces gens-là, ils sont tous nés entre septembre puis novembre.
Fait que c'est là où on fait une grosse fête au village.
On peut faire une fête.
Si je vous dis la voisine.
Bien, je vous dirais Annette, qui était la voisine de Cécilia. Et Annette et les enfants jouent ensemble, puis tout ça. La voisine, c'est Annette. Puis tout le monde l'aimait parce qu'elle aimait tellement les fleurs.
Ah, donc elle mettait de la vie.
Oui, oui, elle mettait de la beauté. Elle se met la beauté, Annette.
Ah, c'est beau. Et la boulangère?
Ah, Marie-Paul. Marie-Paul est très importante parce que d'abord, dans sa maison, elle recevait tous les gars quand ils préparaient les bateaux au printemps. C'est en même temps que les séries éliminatoires au hockey, six équipes seulement, c'est sérieux. Et ils avaient une télévision. Alors, tous les gars qui travaillaient sur chacun des bateaux qu'on préparait pour prendre... En général, au chantier maritime, il pouvait avoir jusqu'à 28 bateaux. Donc, il y avait des gars qui venaient d'un peu partout, les Locoudes, Petite Rivière, Saint-Siméon. Et donc, ils pouvaient suivre quand même les éliminatoires puis faire leur Pâques. Et donc, les éliminatoires, c'était chez Marie-Paul. Le pain aussi pour embarquer ses goélettes,
oui,
c'était
c'est
chez
ça.
Marie-Paul. Et surtout, Marie-Paul, avec Carole, la femme de Rosaire de Gagné, ont mis au monde le musée maritime, qui à l'époque s'appelait l'Exposition maritime de Charlevoix. Et donc, elles ont ramassé les artefacts et tout ça. Donc, c'est sûr que la boulangère des goélettes, c'est Marie-Paul.
Marie-Anne Rainville, merci tellement de nous avoir présenté ces personnages-là qui sont, bien, moi, je trouve plus grands que nature, plus grandes que nature, on va dire. Merci.
Merci à vous.
Je suis la première au rocher, le jour où les bateaux reviennent. Je sais ce que j'y viens chercher, ma chance à moi, chacun la sienne. Ce n'est pas la même que vous, femme qui espérez sans cesse l'heure où reviennent vos époux. Mais moi, je voudrais qu'il y reste. Mais moi, je voudrais qu'il y reste.
Comme il est étrange à marée basse, étrange et attirant, lorsque le fleuve s'est retiré au loin comme ça, il en faut du temps pour traverser le fond sombre et glaiseux, avec des vaguelettes de sable ferme qui font si mal à l'arche des pieds. Pour se rendre jusqu'à lui, il faut marcher si longtemps. Nous nous disons, avec nos petits pieds libres de souliers, on marche au fond du fleuve. Il est comme ça, le fond, quand il n'y a pas toute l'eau au-dessus pour faire tenir les bateaux. Nous ne pourrons plus courir aussi vite. Alors nous vagabondons un peu et nous faisons des découvertes merveilleuses d'algues et de rochers, de coquillages rares et de petites bêtes perdues, les malchanceuses, qui se font attraper par la descente rapide de l'eau et qui risquent la déshydratation ultime.
C'était sur le Jean-Guy. Mes enfants étaient jeunes. Et oui, je les ai embarqués tous les trois. Parce que Jean, il est né en 61. Il avait un an et demi, il a 2 ans. Puis je l'avais couché, on avait des beds, là. Puis là, on avait comme un lit, là. Puis au pied du lit, il y avait comme une espèce de petite de support, là. Tu sais, une petite tablette. Puis là, c'est là, là que lui, je le couchais. Mais les deux autres, là, ils étaient plus grands, ça que je pouvais coucher dans un autre lit. Là.
Fernande Dufour, de l'île aux Coudres, a navigué à bord du Jean-Guy avec son mari et ses enfants dans les années 60.
Quand même incroyable la vie de ces femmes. Dans le prochain épisode, on va rencontrer Jeanne-Paul Desgagnés. Une femme, un personnage. Ici Marie Grégoire. Ce balado est rendu possible grâce à un appui du ministère de la Culture du Québec et au travail d'une navigatrice chevronnée, Francine Plourde, d'Alexis Desgagnés pour la recherche et les trésors artistiques, de Marianne Rainville, que vous avez entendue dans cet épisode, qui est l'idéatrice et la porteuse de passion des goélettes, et notre technicien, Alexis Tremblay. Enregistré au Domaine Forget, ce balado est une production du Musée maritime de Charlevoix.